Donc, pour parler d'accessibilité et d'inclusion dans les musées, pour faire l'état des lieux, on parle à Mme Aude Porceda, qui est professeure en gestion et organisation culturelle au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Mme Porceda.
Bonjour, Mme Compagnon. Ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Oui, ça va.
J'ai eu envie de se faire ce sujet parce que je suis une ancienne guide. J'ai été guide en milieu muséal, principalement des lieux historiques, pendant une vingtaine d'années. Et dans mon souvenir, l'accessibilité des musées se limitait à avoir une rampe, des ascenseurs et des toilettes accessibles aux fauteuils roulants. Est-ce que ça a changé un peu dans les dernières années? Est-ce que, par exemple, on pense davantage aux autres types de handicaps, qu'ils soient physiques ou cognitifs?
Oui, ça a changé depuis quelques années, mais il y a encore quand même une grande présence de stratégies liées à l'accueil des personnes handicapées qui sont sur la gratuité des lieux et sur l'aménagement des espaces. Mais on constate qu'il y a une évolution à peu près depuis les années 2000 où on voit que la médiation a pris de plus en plus de place et a saisi l'opportunité d'aller à la rencontre d'autres types de publics. Donc on voit ça un peu émerger un peu partout dans le monde, mais on peut dire que c'est à peu près dans les années 2000. Avant ça, c'était beaucoup centré sur l'aménagement des lieux.
Et vous avez fait un atelier récemment avec des membres de la Société des musées québécois. Pour le Québec, où est-ce qu'on en est?
Au Québec, en fait, c'est un atelier aussi avec Société Inclusive, qui est un grand groupe de recherche. Et puis, au Québec, on en est actuellement à... Faut être honnête, le Musée national des Beaux-Arts, enfin le Musée des Beaux-Arts de Montréal a pris le leadership de mon point de vue, mais c'est une grosse institution. Mais on a constaté dans l'atelier, on a essayé de voir un peu ce qui s'appelait accessibilité, que se passe-t-il dans les musées. On a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se faisaient dans les petits musées aussi. C'est sûr qu'ils ont des moyens limités, mais ils vont aller développer des choses originales comme des collaborations avec les artistes ou carrément s'associer, enfin faire un partenariat avec des associations qui sont liés avec le handicap et puis pour aller chercher l'expertise. On a ça, par exemple, il y a même aussi Kéroul qui donne qui valide l'accessibilité des musées. Puis le musée de Sherbrooke a été, par exemple, un des premiers à aller chercher ce petit ticket. Puis après, d'autres musées ont suivi. Mais on a, par exemple, dans le musée d'art contemporain de la Naudière, on avait une présentation de Christelle Renoux qui nous montrait comment ils ont créé un pôle recherche pour concevoir des outils sonores pour les personnes. Ils ont formé des médiateurs en langue des signes et ils travaillent avec des artistes pour aller chercher des enfants, enfin des enfants qui ont des problèmes aussi d'apprentissage, etc. Comme le Centre des sciences de Montréal, qui lui a carrément développé des boîtes à outils pour les médiateurs, pour aider les enfants qui ont des troubles d'apprentissage et pour mieux les adapter au niveau scolaire, des troubles de la communication, etc. Et pareil, on a le Musée national des Beaux-Arts de Québec, dans ce cas-là, qui est aussi en train de prendre une tangente majeure sur l'accessibilité. Je pense qu'il va bientôt être un lieu de rencontre pour toutes les personnes qui vivent tout type de handicap. Bien sûr, il y a l'accueil gratuit, mais ils travaillent actuellement sur les 18-30 ans qui ont des problématiques de santé mentale avec un projet qui s'appelle S'inspirer. Il y a Parcours sensoriel aussi. C'est un projet pour les personnes avec des déficiences visuelles. C'est une table sensorielle qui sont avec 7 stations interactives. Puis il y a d'autres projets comme Inter-G pour les personnes âgées en situation d'isolement et des enfants. Ce que les musées recherchent actuellement, c'est vraiment d'être proposer des moments de répit par l'art, par la science, par l'histoire. Et on voit émerger, par exemple, le concept de Caring Museum. Et donc, c'est un peu cette idée que le musée n'est pas juste un lieu où on fait rencontrer on amène un visiteur devant une œuvre ou devant un espace ou devant une autre personne qui va faire de la médiation. On essaye vraiment d'inclure la personne, de lui faire vivre des expériences pour développer sa sensibilité, son ressenti, ses émotions, pour qu'il ait le développement aussi de son empathie, pour qu'il puisse rentrer en contact avec l'art, la science ou des autres disciplines comme l'histoire. Donc on est vraiment dans ce courant du Caring Museum là depuis quelques années qui est en train de se positionner. Puis ça s'inscrit dans l'idée que le musée, il y a le travail, il y a la maison, mais il y a aussi le musée ou la bibliothèque qui sont des lieux où on peut vivre des rencontres sociales avec soi ou avec les autres.
Le troisième lieu.
Oui, exactement, le troisième lieu.
Qu'est-ce qui est le plus souvent l'élément déclencheur? Est-ce que c'est une demande du milieu? Est-ce que c'est une sensibilité de personnes qui sont en place?
Ça vient un peu des deux. Moi, quand je travaillais au Musée de la Civilisation, c'est vraiment... vous voyez, le Musée de la Civilisation, dès sa création, il avait créé une exposition je crois que c'était sur la surdité. Puis après, il y a eu un rue des apparences qui était plus global. Mais ça vient à la fois... C'est sûr, quand on a les dirigeants qui embarquent, ça va très vite. Et puis là, les choses se mettent en place. Pourquoi les sociétés d'État avancent vite? C'est parce qu'elles ont aussi des contraintes légales avec la loi, enfin la politique à part entière, et puis ils ont été obligés de faire des plans d'action, etc. Donc au début c'était très administratif, mais dès qu'on a des gens qui vivent ça dans leur quotidien ou dans leur famille, ça va faciliter les choses. Mais on peut imaginer qu'il y a beaucoup de résistance, mais ce que j'ai constaté, c'est que les gens sont très créatifs dans les musées pour faire inventer des choses pour les personnes, quel que soit leur type de handicap. Les freins, c'est souvent ils sont trop créatifs et ça fait que ça tombe à côté ou ils connaissent pas vraiment c'est quoi la situation de handicap. Donc ils vont aller chercher des experts pour s'assurer que ça va coller. Et des fois, on oublie de tester avec ces personnes-là pour s'assurer qu'on répond bien à leurs besoins. Donc ça vient beaucoup du soutien de la direction, c'est sûr. Et puis ça vient de l'encouragement des équipes en place pour s'exprimer et puis créer pour ces personnes-là, tout en étant accompagnées pour pouvoir se remettre en question.
Vous avez parlé du fait qu'on oublie de tester avec les publics cibles. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un problème d'arrimage, ou en tout cas, est-ce qu'on pourrait en faire davantage pour un arrimage entre le milieu associatif du handicap et le milieu muséal?
C'est clair. Je sais que le Musée national des Beaux-Arts à Québec est en train de sonder tout son milieu associatif. C'est clair qu'il n'y a pas de communication. On avait fait une rencontre, café accessibilité au Musée de la Civilisation, et on s'était rendu compte que les gens n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait dans nos murs. Des fois, il peut y avoir des obstacles qui sont liés à l'accès physique, parce que le transport, c'est loin, etc. Mais il y a un gros problème de communication, les gens ne savent pas ce qu'on fait. Donc la communication ne passe pas entre les... Même s'il y a des liens, on reste un lieu de visite et puis parfois élitiste. Les gens rentrent et puis n'osent pas trop venir et pensent pas que le musée est un lieu de sociabilité et puis de plaisir en fait. Donc problème de communication, problème d'image du musée et puis l'arrimage avec les associations, ils ont aussi la réalité, c'est beaucoup d'organisation et puis c'est pas si simple. Des fois quand on gère beaucoup de choses, on va choisir ce qu'on connaît bien et puis on s'assure que ça fonctionne.
Est-ce qu'il y a une méconnaissance de tout le bassin de visiteurs que ça pourrait représenter si on prend toutes les limitations fonctionnelles réunies et que donc ça vaudrait la peine parce que ça fait entrer des gens au musée?
Je pense que maintenant, je pense que depuis quelques années, je vais dire peut-être depuis 2-3 ans, il y a une vraie prise de conscience du potentiel pour de ces personnes-là. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que si on adaptait pour les personnes avec tout type de déficiences, que ça servait aux autres, en particulier pour les personnes âgées et pour les familles qui sont les principaux visiteurs des musées, en fait. C'est qu'on est toujours avec ces niches-là, puis on a du mal des fois à aller ouvrir vers d'autres. Mais là, il y a vraiment une prise de conscience, je pense, du grand bassin de ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus se développer des programmes un peu partout dans les musées. Et même les petits, c'est ça qui est étonnant, qui ont des ressources très limitées et qui se donnent du mal parce qu'on a tous un enfant qui a un problème d'apprentissage, on a tous une personne âgée à côté de nous qui s'est cassé une hanche et qui ne peut plus marcher, etc. Et donc que ce soit un grand ou un petit village, quoi. Donc maintenant les musées sont vraiment ouverts sur la communauté et n'ont plus le choix de fonctionner comme ça. Et ils connaissent de plus en plus leur public, en fait, parce qu'il y a de plus en plus d'évaluations.
Et quand on pense à la population vieillissante, mais qui sera aussi peut-être une population, qui sera probablement une population à la retraite, c'est un bassin de gens qui ont le temps d'aller visiter.
Exact. Ça, c'est un gros enjeu, là. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. Mais il y a même pour les petits, je me rappelle au Musée de la Civilisation, ils avaient fait un projet pour les nouveau-nés, enfin pas les nouveau-nés, mais tout petits. Puis il y avait des familles qui venaient avec leurs bébés et tout ça, mais on avait offert des horaires spéciaux le matin ou à des moments où c'était plus facile pour les petits-enfants et puis les parents. Et pareil pour les personnes âgées. Ça, c'est des gros axes de développement au niveau des publics.
Mais on invite les gens qui sont intéressés par la culture et qui sont en situation de handicap à contacter leurs institutions. Parce que, par exemple, au Musée des Beaux-Arts et au Musée Stuart, ici, il y a un programme de visite pour les personnes qui ont un handicap visuel et c'est suite à l'initiative d'une dame mordue de culture et qui a un handicap visuel. Donc, peut-être qu'il faut faire connaître ce besoin-là parce que s'ils ne vous voient pas, s'ils ne vous entendent pas, ils ne savent pas que vous êtes un bassin de visiteurs potentiels. Alors, Aude Porceda, merci beaucoup pour ces précisions.
Merci.
On aurait pu en parler encore très, très longtemps. On est deux mordus, mais c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que l'émission change, mais peut-être que vous aurez l'occasion de nous reparler à quelqu'un ici à Canalem. Merci beaucoup.
Merci encore pour l'invitation. Je suis bravo pour ce que vous faites.